est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Les droits de l'homme, c'est la chose de tous. Ce n'est pas par des festons et des astragales qu'on les fera avancer, c'est par des mesures positives, et ces mesures positives ne seront prises que si les opinions publiques de tous les pays s'y intéressent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Bonjour et bonne année. Une fausse évidence est en passe de se dissiper. Voici quelques décennies, le sentiment se répandait, au moins en Occident, que les droits de l'homme, les droits de la personne humaine, étaient voués à élargir progressivement et en somme, à termes proches, leur royaume bienfaisant tout autour de la planète. La fin des guerres coloniales et celle de l'URSS, libérant ses satellites de son emprise, semblaient à beaucoup promettre le triomphe planétaire des grands principes issus de la Réforme et des Lumières. De façon significative, le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle qu'adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, fut fêté en 1998 dans un climat d'optimisme. Les résistances à son application pouvaient paraître désormais n'être que des scories résiduelles d'un monde ancien. Or, 20 ans plus tard, le 70e anniversaire, célébré il y a quelques semaines, l'a été dans une tonalité bien plus morose. C'est l'effet du grand nombre de malheurs nouveaux qui ont été répandus entre-temps sur la planète et aussi de la remise en cause dans bien des pays de principes ravalés par eux au rang d'une simple idéologie et destinés comme tels à se flétrir. Ce projet est désormais présenté par beaucoup comme voué à se confronter à d'autres qui ne font pas de l'être humain l'alpha et l'oméga du bon gouvernement. La suite de cette opposition primordiale n'est pas écrite, mais cette ambiance actuelle invite en tout cas à resituer le combat pour les droits de l'homme dans l'épaisseur historique de plusieurs siècles, afin d'en mieux distinguer la genèse, les ressorts, les ardeurs et les faiblesses à la lumière de la longue durée. Mon invitée, Valentine Zuber, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, a publié bon nombre d'écrits importants sur ce thème. Nous allons donc faire fond sur sa science et sur sa pertinence. Et pour commencer, un extrait du discours de Henri Laugier au sujet de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un discours qui remonte au 8 décembre 1948.
Mesdames et messieurs, je vous parle aujourd'hui comme le secrétaire général adjoint chargé des questions sociales aux Nations unies. Je dois vous dire que c'est pour moi une grande joie, une joie profonde et grave, de vous annoncer qu'une grande entreprise des Nations unies est à la veille, vraiment à la veille d'aboutir. Aujourd'hui, après près de 3 ans de travail de la Commission des droits de l'homme, du Conseil économique et social, du Comité social de l'Assemblée générale, l'on peut dire que malgré toutes les difficultés, contre tous les scepticismes, contre toutes les prophéties défaitistes, cette tâche a été accomplie à une approximation humaine hautement honorable et hautement satisfaisante. Et que, dans les jours qui viennent, le travail lent, patient, obscur des organes des Nations Unies sera couronné par un vote de l'Assemblée des Nations Unies, de cette Assemblée des peuples libres et pacifiques du monde, définissant dans une déclaration historique ce minimum de droits dont le respect est indispensable à la dignité de l'homme sous tous les climats politiques de l'univers. Cette déclaration est-elle une œuvre parfaite? Personne ne serait assez naïf pour le soutenir. C'est une œuvre de bonne foi et une œuvre de compromis. Compromis essentiellement entre deux tendances. L'une, plus prudente, souhaitait que le contenu de la déclaration se limitât aux droits communs actuellement reconnus par les constitutions ou les législations des divers États membres. L'autre, plus audacieuse, souhaitait que la déclaration fût, pour tous les peuples rassemblés aux Nations Unies, une étoile qui montre la route vers le progrès humain et la justice politique, économique et sociale. Réjouissons-nous que ces deux tendances aient marqué la déclaration universelle qui naît en ce moment. Ceux qui l'ont rédigée avaient les pieds sur la terre ferme, mais leur regard était tourné vers le ciel. Si l'on réfléchit à l'influence prodigieuse qu'ont eue sur l'évolution du monde, les différents textes nationaux des droits de l'homme que constituent la Magna Carta, les divers Bill of Rights, la Déclaration française, on peut imaginer l'action puissante qu'aura ce texte international proclamé par le rassemblement de peuples le plus universel qui ait jamais existé. Lorsque sera venu le recul du temps, il est vraisemblable que ce texte, publié dans les circonstances présentes, apparaîtra comme un des plus décisifs de l'histoire de l'humanité.
Valentine Zuber, bonjour.
Bonjour.
Nous avons donc entendu Henri Laugier, c'était un physiologiste qui était également un grand résistant de la première heure et qui est devenu, après la guerre, haut fonctionnaire, comme il l'a dit lui-même, à l'ONU et qui a joué un rôle essentiel. Un peu pompeux par moment, mais après tout, l'importance du texte appelait peut-être cela. Texte essentiel, nous dit-il. Avec le recul du temps, on s'apercevra qu'il est tel. Est-ce que nous qui avons ce recul, nous pouvons ratifier cette prévision ?
Nous pouvons la ratifier, bien sûr, mais ça n'était pas évident à l'époque. Certains historiens pensent même que la Déclaration universelle des droits de l'homme a cheminé souterrainement pendant de nombreuses années avant d'être véritablement réintroduite et reconnue internationalement par les pays.
Après son adoption, vous voulez dire ?
Après son adoption, oui, parce qu'il y a eu tout de suite après la guerre froide, les guerres de décolonisation, les problèmes sociaux et sociétaux autour des années 60-70. Et en fait, c'est à partir des années 70 que ce texte est revenu à l'agenda et a été partagé plus largement à la fois par les États, bien sûr, mais aussi par les sociétés.
Ce que dit Henri Laugier, dont par parenthèse Stéphane Hessel était le directeur de cabinet, ce que dit Henri Laugier des deux chemins possibles qui se présentaient aux rédacteurs de la déclaration, vous paraît, avec le recul, pertinent ?
Oui, je trouve très intéressante cette remarque parce qu'on a eu tendance un petit peu à sacraliser cette Déclaration universelle des droits de l'homme. On voit bien que les concepteurs, ceux qui l'ont travaillé, eh bien, ils montrent bien que c'est un travail humain et qu'il y a eu des compromis. Ils parlent même de compromis et le compromis n'est pas la compromission. Le compromis est fondateur et fécond et ils montrent bien qu'on aurait pu soit en faire un texte minimum, le plus petit dénominateur commun des différents États, ou bien un guide. Une espèce de geste, un texte presque para-religieux. Et en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est à la fois l'un et aussi l'autre.
Donc nous resituons vraiment ce texte dans la longueur du temps historique et nous verrons pourquoi il est plus remis en cause aujourd'hui que ce n'a pu être le cas il y a 20 ans. Mais auparavant, peut-être pouvons-nous donner la parole pour commencer à Voltaire, parlant de l'affaire Calas. On se rappelle que c'était ce personnage protestant qui avait été de façon inique condamné par la cour de Toulouse, protestation de Voltaire, qui en a fait une affaire symbolique du combat pour les droits de l'homme avant le temps de la Révolution française, dans le cœur du siècle des Lumières. Écoutons ce que dit Voltaire, c'est une lettre à des amis qui est datée du 5 juillet 1762, un extrait d'une émission de France Culture le 28 août 1994.
Au comte et à la comtesse d'Argental. Aux délices, 5 juillet 1762. Que demandons-nous ? Rien autre chose sinon que la justice ne soit pas muette comme elle est aveugle, qu'elle parle, qu'elle dise pourquoi elle a condamné Calas. Quelle horreur qu'un jugement secret, une condamnation sans motif. Y a-t-il une plus exécrable tyrannie que celle de verser le sang à son gré, sans en rendre la moindre raison ? Ce n'est pas l'usage, disent les juges. Eh, monstre, il faut que cela devienne l'usage. Vous devez compte aux hommes du sang des hommes. Pour moi, je persiste à ne vouloir autre chose que la production publique de cette procédure. Il importe à tout le monde qu'on motive de tels arrêts. Le Parlement de Toulouse doit sentir qu'on le regardera comme coupable tant qu'il ne daignera pas montrer que les Calas le sont. Il peut s'assurer qu'il sera l'exécration d'une grande partie de l'Europe.
Valentine Zuber, ce texte, que nous dit-il ?
Eh bien, il réclame en fait une véritable justice égale pour tous et qui motive ses décisions. Évidemment, Voltaire n'a pas parlé de droits de l'homme, mais très peu de temps après, finalement, à l'échelle du temps, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va mettre en forme ces réclamations en disant que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, en précisant comment un procès doit se tenir pour respecter la dignité de l'homme. Eh bien, on peut dire que la réponse des révolutionnaires a été à la hauteur de l'enjeu de Voltaire.
Il y a une autre composante importante de l'affaire Calas, comme je le disais, c'est l'aspect religieux, puisqu'il était protestant.
Oui, il avait été condamné à mort parce que l'accusation disait qu'il avait tué son fils qui avait voulu se convertir au catholicisme. Qu'on avait retrouvé pendu. Bon, le fait est que très probablement, c'est le fils lui-même qui s'est suicidé. Mais ce changement de religion, justement, était inacceptable sous l'Ancien Régime. Et c'est pour ça que Calas a été condamné et exécuté, hein, de manière terrible d'ailleurs, comme on le faisait à l'époque, roué, écartelé, etc.
D'où la formule qui peut d'ailleurs paraître un peu étrange de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur la religion.
Oui, alors c'est un article fondamental de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, effectivement, même si la formulation est assez étrange, puisque à la fois on assimile la religion, la croyance religieuse à une opinion, ce qui est plutôt un peu dépréciatif, et en plus, même cette opinion-là, on peut la rendre libre.
Oui, il faut lire le texte.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Même religieuses, oui, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et cet article assez dépréciatif, en tout cas aux yeux des contemporains, est devenu le fondement de la liberté religieuse telle qu'elle est comprise en France.
Alors dès qu'on aborde, Valentine Zuber, dès qu'on aborde l'histoire et la genèse de la grande déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, on est tout de suite plongé dans une grande querelle, c'est-à-dire la question de la préséance, en somme. Est-ce que le rôle de l'Amérique a été essentiel ? Il a probablement été. Quel a été ce rôle ? Il y a une grande querelle très intéressante à restituer en 1902, dans le climat du début du XXe siècle, entre Boutmy et Jelinek. Et comme vous évoquez longuement cette querelle dans votre dernier livre sur l'origine religieuse des droits de l'homme, j'aimerais que vous nous la résumiez, elle me paraît importante.
Oui, c'est une querelle à la fois historiographique et juridique qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. On était en 1902, donc au moment un peu de la politique assez anticléricale, hein, du gouvernement Combes, donc dans un moment un petit peu délicat de la République, dans les suites de l'affaire Dreyfus. On est dans la rivalité, dans l'esprit de revanche, puisque la France a été amputée de l'Alsace-Moselle plusieurs années auparavant, et qu'il y a cet ennemi allemand qui reste un point de focalisation.
Donc, les deux protagonistes sont des personnages importants.
Absolument. Jelinek est un grand juriste qui travaille en Allemagne, plus particulièrement. Et puis, Émile Boutmy est un des fondateurs de l'École libre des sciences politiques qui va devenir le fameux Sciences Po.
Grande figure, le magazine de Sciences Po s'appelle aujourd'hui Émile.
Absolument, et le plus grand amphi de la rue Saint-Guillaume s'appelle Émile Boutmy.
Et alors, comment se dessine la querelle entre ces deux éminents personnages ?
Eh bien, Georg Jelinek fait paraître un essai faisant remonter l'origine des droits de l'homme et donc de la déclaration française, dont les Français sont très fiers déjà depuis plus d'un siècle, au calvinisme et donc aux possibilités de démocratisation de la société et des libertés à travers tout le cheminement donc du protestantisme dans les différentes sociétés, que ce soit les sociétés anglaises puis américaines, pour revenir donc en France par l'intermédiaire de Lafayette et des personnes qui ont combattu auprès des Américains et qui se sont inspirées donc du combat de la Révolution américaine.
Et que réplique Boutmy ?
Alors pour Boutmy, évidemment, c'est compliqué à accepter et pour lui, tous les droits naturels qui sont compris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen découlent directement de la philosophie des Lumières et en particulier de Jean-Jacques Rousseau. Or, Jelinek pense que Jean-Jacques Rousseau n'a pas porter cette liberté, mais plutôt le despotisme de 1793 par ses écrits, en particulier dans le contrat social.
Les textes américains étant aux yeux de Jelinek directement inspirés des principes qu'avait développé Luther.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il remonte la généalogie, si vous voulez, des droits de l'homme jusqu'à Luther, même si évidemment il n'y aurait qu'une petite flamme de droits de l'homme dans les écrits de Luther.
Enfin, mais c'est le pur produit du génie germanique, pour tout dire.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il y a aussi, à travers cette querelle, les relents de l'actualité, c'est-à-dire que de cette rivalité entre l'université allemande et l'université française et sur les modalités un peu dont on construit l'histoire.
Et Boutmy nous dit que les Américains avaient conçu leur déclaration, en particulier celle fameuse de Virginie en 1776, les avaient conçus afin qu'elles soient produites devant les tribunaux, alors que les Français, en revanche, auraient élaboré un texte, dit-il, désarmé, je le cite, conçu pour l'enseignement du monde.
Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que on entend ça aujourd'hui, cet argument qui fait que les droits, en particulier la liberté religieuse, qui sont beaucoup portés par les États-Unis d'Amérique jusqu'à aujourd'hui, seraient des droits qui permettent une judiciarisation et qui sont garantis par les juges, alors qu'en France, c'est plutôt un idéal et un projet politique.
Boutmy ajoute que si la déclaration française est supérieure, c'est parce qu'elle est écrite dans le style sobre et hardi d'un philosophe qui n'est préoccupé que de l'idée générale à exprimer.
Oui.
C'est le temps où Rivarol disait que tout ce qui n'est pas clair n'est pas français.
C'est un peu ça. Et c'est aussi cette insistance sur la philosophie et sur le rôle des grands idéaux pour transformer le monde, qui me paraît une tradition assez française.
Mais alors regardons tout de même les choses du côté des États-Unis qui, eux-mêmes, dans certains cas, peuvent faire référence à ce qu'on appelle la Magna Carta. Magna Carta, cela veut dire Grande Charte.
Oui.
Texte fameux du XIIIe siècle en Grande-Bretagne, qui, aux yeux des Britanniques aujourd'hui encore, semble la matrice, le creuset de tout ce qui est advenu ensuite dans ce domaine.
Oui, alors c'est effectivement, cette Magna Carta est un texte, une étape symbolique extraordinairement importante, mais elle ne concerne que le droit des Anglais, eux-mêmes.
D'ailleurs, Madame Thatcher, Premier ministre, en 89, au moment du bicentenaire, ouais, est arrivée en France et dans une interview au Monde expliquait qu'elle ne voyait pas pourquoi les Français se gargarisaient de cette déclaration alors que c'était les Anglais qui avaient inventé les droits de l'homme. À quoi, du côté français, on a répondu que certes, les Anglais avaient fait ce très beau texte, mais que, comme vous venez de le dire, c'était à destination unique des habitants de l'île.
Oui, tout à fait. Et de même que le Bill of Rights de 1689 est aussi un texte qui est plutôt destiné aux Anglais eux-mêmes.
Alors que disaient les déclarations américaines par rapport à du XVIIIe siècle, de l'indépendance américaine? Je ne vous demanderai pas de prendre absolument parti dans la querelle. Oui. Jelinek, Boutmy, encore que...
Eh bien, écoutez, c'est vrai que, en fait, les deux ont tort et les deux ont raison.
Comme vous êtes habile.
Mais il est vrai que l'Assemblée constituante, en 1789, en France, résonnait de ces textes américains qui avaient été traduits et publiés à maintes reprises par d'ailleurs des acteurs même de la Révolution française, des
c'était
nobles.
C'était le duc de La Rochefoucauld,
voilà,
je crois.
Tout à fait. Donc ces textes étaient connus et dans les débats, quand on consulte les débats de l'Assemblée constituante, on entend résonner ces textes. Mirabeau les cite. Enfin, ça fait partie du patrimoine commun de quelque chose qui est évidemment un exemple. Mais en même temps, Jefferson, qui était très attentif à ce qui se passait en France en 1789...
Il était ambassadeur des États-Unis en France.
Voilà, en plus il était tout proche, a toujours dit, enfin en tout cas il l'a dit dans une lettre, qu'il n'avait pas voulu se mêler de ces débats, qu'il ne voulait pas qu'il y ait un soupçon d'ingérence étrangère dans ces débats nationaux qu'il suivait avec passion. Et donc, on ne sait pas très bien quelle est la part prise finalement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'exemple américain.
Quand même mis sa statue devant l'Institut ou devant l'immeuble de la Légion d'honneur à Paris, au bord de la Seine.
Oui, bah, évidemment, parce que...
La statue de Jefferson.
Oui, Jefferson était un personnage tout à fait passionnant, déiste, et c'est lui qui est aussi à l'origine du premier amendement à la Constitution américaine, et qui constitue un des éléments du Bill of Rights américain sur la séparation, le mur de séparation finalement entre les églises et l'État, qui fonde la laïcité américaine et qui, bien avant la nôtre, est ainsi actée.
Alors, la généalogie, on accepte cette généalogie américaine de notre déclaration ?
Oui, alors avec des différences. D'autres chercheurs, en particulier l'historienne Christine Fauré, ont montré que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ressemblait aussi structurellement aux déclarations du roi de l'Ancien Régime. Et donc, il y a quelque chose de typiquement français aussi, dans cet aspect un peu juridique de la déclaration, avec ses articles très précis, très courts et efficaces, que n'ont pas évidemment les textes américains qui sont plus littéraires et plus lyriques, je dirais, que cette déclaration extrêmement courte.
Pour restituer ce climat, il faut à un moment donné, et c'est maintenant, donner la parole à Condorcet, le magnifique Condorcet. Un extrait de son texte, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. C'est un texte posthume, il est mort en mars 94, un texte publié en 1795, qui est ici lu par Christophe Lémé dans « Une vie, une œuvre » de Simone Dweck sur France Culture, le 16 juin 1994.
Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l'état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés tels que les Français et les Anglo-Américains? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l'ignorance des sauvages, doit-elle peu à peu s'évanouir? Y a-t-il sur le globe des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison? Cette différence de lumière, de moyens ou de richesse, observée jusqu'à présent chez tous les peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d'eux, cette inégalité que les premiers progrès de la société ont augmentée, pour ainsi dire, produite, tient-elle à la civilisation même ou aux imperfections actuelles de l'art social? Doit-elle continuellement s'affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l'art social qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu'une inégalité utile à l'intérêt de tous, parce qu'elle favorisera les progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. En un mot, les hommes approcheront-ils de cet état où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d'après leur propre raison dans les affaires communes de la vie et la maintenir exempte de préjugés pour bien connaître leurs droits et les exercer d'après leur opinion et leur confiance? Où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins? Où, enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents et non l'état habituel d'une portion de la société.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il me semble que ce beau texte, Valentine Zuber, aide à comprendre le climat dans lequel s'est élaborée la grande déclaration des droits de l'homme en France. Il y a les lumières, il y a la raison, l'idée que tous les hommes peuvent être et doivent être concernés.
Oui, tous les hommes, mais en même temps avec cette réserve de taille quand même, je le dirais, sur le fait que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89-91 ne concerne que les hommes, les mâles. C'est bien des droits de l'homme, de l'homme en société. Et donc, l'homme en société, à l'époque, c'est la, l'homme masculin. Le grand progrès des droits de l'homme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il concerne enfin l'ensemble des êtres humains. Parce que dans les droits du 18e, étaient écartés évidemment les femmes, mais aussi les esclaves, les enfants, les gens qui ne payaient pas d'impôts. Enfin, vous voyez, finalement, c'était des droits de l'homme appelé à s'universaliser. Le texte de Condorcet est magnifique pour ça, hein, puisque il souhaite qu'il s'étende finalement à tous les peuples. Il demande, est-ce qu'il y a des peuples qui seront un jour toujours privés de la liberté? Et donc il a cette vision universelle, et aussi ce qui est quelque chose d'intéressant aussi dans ce qu'il dit, c'est que ça ne touche pas seulement aux droits en société, aux des droits civils et politiques, mais aussi aux droits économiques et sociaux. Et je crois que là, il l'écrit après 1793, et vous le savez, il y a une autre déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été produite en 1793 et qui est plus complète que celle de 89, puisqu'elle elle comprend là aussi des droits économiques et sociaux pour les plus pauvres.
Et là, on s'approche déjà de notre déclaration de 1948. À côté des droits civiques, à côté des droits juridiques au sens étroit du terme, politiques.
Des libertés publiques, oui.
Les droits économiques et sociaux. C'est la grande nouveauté.
C'est la grande nouveauté, mais vous voyez qu'ils existaient déjà dans les consciences, en tout cas sous la Révolution française. Évidemment, le grand tort, c'est que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 n'a jamais été appliquée, n'a jamais véritablement eu de prolongement politique, et donc elle est restée lettre morte et elle est restée méconnue.
Et celle qui suit dans la période thermidorienne, après la chute de Robespierre et des siens en 95, ne constitue pas non plus un progrès majeur.
Alors, je dirais même que c'est plutôt un recul, parce qu'elle s'appelle Déclaration des droits de l'homme et des droits et des devoirs de l'homme. Et là, cette thématique droits et devoirs, on la voit jusqu'à aujourd'hui, réclamée par certains vis-à-vis des droits de l'homme, et elle est portée en général par la frange la plus conservatrice des hommes politiques pendant la Révolution jusqu'à aujourd'hui.
On voit en tout cas au XIXe siècle Karl Marx s'inscrire dans cette critique à l'égard de déclarations qui ne sont pas, qui sont exclusivement juridiques. En 1844, dans un article extrait de la Question juive, il est très clair à cet égard. Ce n'est pas l'homme comme citoyen, mais l'homme comme bourgeois qui est pris pour l'homme proprement dit, pour l'homme vrai.
Oui, je pense qu'il a bien montré, effectivement, très très vite, que les limites de ces déclarations de la fin du XVIIIe siècle, qui, comme je le rappelais, ne s'appliquaient qu'aux propriétaires, hein, ceux qui payaient le cens, ceux qui pouvaient voter. Et il n'était pas de question de suffrage universel encore à l'époque, même de suffrage universel masculin. Donc, les personnes concernées pouvant se réclamer de ses droits, était un tout petit nombre.
Mais c'était des bourgeois qui ont d'ailleurs rédigé la déclaration de 1789.
Des bourgeois, des aristocrates, oui, bien sûr. C'était l'élite de la société.
Et ils ont laissé à côté Olympe de Gouges, la fameuse Olympe de Gouges, dont l'importance a été d'ailleurs symboliquement, probablement surévaluée après coup, parce qu'elle n'a pas été très très connue à l'époque, la fille naturelle de Lefranc de Pompignan. Mm-hmm. Olympe de Gouges qui a rédigé et affiché sur les murs
la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, en fait, appliquant exactement le même titre que la déclaration de 1789, mais à l'autre genre qui existait en France. Et elle avait un argument de taille. Elle disait, si les femmes peuvent effectivement être condamnées à monter sur l'échafaud pour des actes politiques qu'elles ont commis, elles pouvaient aussi avoir le droit de voter et de travailler au changement révolutionnaire. C'est ce qui lui est arrivé, d'ailleurs.
Elle a été guillotinée.
Elle a été guillotinée, oui.
Pour revenir à Marx, il est intéressant de voir que Jaurès est plus nuancé dans son regard sur la déclaration de 89, lui-même qui a été l'auteur de, et le responsable d'une très belle histoire socialiste de la Révolution française. Pour Jean Jaurès, il faut saluer la première étape, qui est celle de 89. Maintenant, dit-il, la classe prolétaire doit pouvoir s'emparer symboliquement de cette déclaration afin d'achever son œuvre de liberté et d'égalité. Mais pour cela, ajoute-t-il, il est nécessaire de rompre avec la sacralisation républicaine de ces principes. Il faut aboutir à un droit économique et social. Vienne l'heure, dit-il, où le prolétariat saura réfléchir sur sa destinée et les intérêts de sa classe. Il saisira un contraste violent entre les droits naturels de tout homme proclamés par la révolution bourgeoise et sa propre dépendance sociale. Alors, la déclaration des droits de l'homme, changeant de sens et changeant de contenu à mesure que se modifie l'histoire, deviendra la formule de la révolution prolétarienne. Vision linéaire, anticipée vers une sorte de nirvana.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il prend en compte la critique marxiste, bien entendu, mais dans un contexte français, et il l'écrit à une période où, évidemment, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est ce qu'on conserve de positif de la Révolution française. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, la Révolution française reste quelque chose de très compliqué à assimiler, et que c'est un objet de débat continuel entre les partisans de 89, les partisans de 93, les opposants à 89, les opposants à 93, et tout le monde se focalise. Donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a capacité à presque réunir tout le monde, enfin avec l'exception des catholiques, sur un projet commun qui peut être développé.
Et dans le même temps, la Troisième République ne reprend pas le texte. Il faudra attendre 1945 pour que la déclaration de 89 soit reprise en préambule du texte alors adopté.
Alors ça, c'est
1946.
Vraiment. 1946. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que en entreprenant cette recherche, je ne pensais pas du tout. Je pensais que la Troisième République, en plus qui a vécu le centenaire de la Révolution de 89,
avec quel éclat,
proclamait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un peu partout dans les manuels scolaires, dans les cours de justice, etc. Je ne pensais pas que la Troisième République n'avait pas inscrit ce texte dans un préambule quelconque de ses lois constitutionnelles. Alors que tous les autres gouvernements français, qu'ils soient progressistes ou réactionnaires, tout au long du XIXe siècle, y compris le Second Empire, s'étaient référés dans leur texte principiel aux principes de 89. Alors on ne disait pas forcément la Déclaration des droits, mais on parlait des principes de 89, ce qui équivalait à la même chose.
Des principes qui ont été influents bien au-delà de la France à ce moment-là, par exemple en Amérique latine.
Oui, alors on peut dire effectivement que l'universalité de ce texte est une réalité, dans le sens que il a été popularisé en Europe par les conquêtes napoléoniennes, enfin qui ont voulu aussi le donner à ces peuples, une espèce de don de la France généreux à l'émancipation des peuples, mais texte aussi qui a servi à ces peuples à se retourner contre Napoléon, contre le colonisateur, contre le conquérant. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a don de la France, bien entendu, mais aussi réappropriation par les différents peuples de ces textes contre la France.
Et c'est vrai aussi dans tous les combats décolonisateurs du XXe siècle.
Oui, alors ça n'a pas été les seuls arguments, mais c'est vrai que les droits de l'homme, et en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont servi de réservoir d'arguments pour prôner la décolonisation. Et d'ailleurs, dans la fin du préambule de cette déclaration, vous avez une mention de ce monde qui n'est pas libre encore et qui peut-être sera appelé à le devenir. On sent comme une préscience de cette décolonisation.
Il est temps donc que nous en venions à la Déclaration universelle de 1948, dont on vient, je le disais, de célébrer le 70e anniversaire, pour comprendre ce que elle incarne de continuité par rapport aux textes antérieurs et de nouveauté aussi. Valentine Zuber, nous allons parler de sa genèse, de son élaboration, mais auparavant, écoutons la voix de René Cassin, qui a été un compagnon de Gaulle dans la Résistance, professeur de droit lui-même, et qui a été un des auteurs, parmi d'autres, qui n'étaient pas tous français, un des auteurs avec Laugier, notamment, que nous entendions tout à l'heure, un des auteurs de cette déclaration universelle. Il a joué aussi un rôle important, Madame Roosevelt, la femme de Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Et je vous propose un extrait de la Tribune de Paris, cette émission que nous aimons beaucoup. Vous savez, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. C'est une émission de Paul Peyronnet, le 9 juin 1948. Nous sommes quelques mois avant la signature de la Déclaration universelle qui remonte, je le disais, au 10 décembre de cette même année.
Si nous réussissons à avoir pas seulement une déclaration, mais un pacte, je crois que l'homme dans la rue verra une différence. Une déclaration aura une force morale. Et déjà, je crois que dans le monde entier, il y aura bien des choses qui changeront pour tout le monde et qui s'amélioreront. Mais si nous avons un pacte dans les pays qui acceptent le pacte, il y aura tout à fait des choses assurées pour l'homme de la rue et qui n'ont pas été certaines avant. Et je crois que ça changera beaucoup les choses dont il a eu peut-être peur. Il n'aura plus peur.
Monsieur Cassin, est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui, je pense d'abord que nos travaux, s'ils viennent à effet, amèneront l'homme directement en face de la communauté internationale. L'individu reprendra sa dignité même aux yeux de lui-même. Mais sur un plan plus pratique, je pense que l'homme de n'importe quel pays ou est appelé à bénéficier des garanties qui seront reconnues dans la Déclaration et la Convention, ou bien, et c'est ce qui est capital, saura que dans d'autres régions du monde, il y a moins d'iniquités, moins d'abus, et par là même, moins de risques de guerre. N'oubliez pas que la négation des droits de l'homme, dans les années qui ont précédé la guerre, a conduit à la violation des droits des peuples et à la guerre. Donc, sauvegarder les droits de l'homme du commun, c'est respecter les peuples et c'est préparer un régime de paix.
On voit bien cette notion nouvelle par rapport à 89, l'idée de la paix. Au fond, il y a, à entendre ces propos, trois différences majeures. C'est la nature des droits, nous en parlions, c'est les bénéficiaires dont il s'agit, et puis c'est l'étendue géographique.
Ce qui me frappe beaucoup en réentendant cette interview, c'est que il part bien, et d'ailleurs Eleanor Roosevelt aussi insiste bien, ce sont les droits de l'individu, du tout petit, de chacun d'entre nous, et qui s'étendent aux droits des peuples et aux droits des nations. Et donc, il y a cet éventail extrêmement large qui est garanti par le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, finalement, même si ce texte reste un texte déclaratif, donc qui n'a pas de pouvoir véritablement contraignant. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on entend René Cassin parler de convention, parce qu'il y a eu un débat au sein de la Commission pour savoir s'il fallait que ce texte soit immédiatement contraignant ou bien si on allait adjoindre une convention. C'est la deuxième décision qui a été prise pour des raisons tout à fait pragmatiques. Il fallait que cette déclaration soit votée massivement et de préférence par l'ensemble des États représentés à l'ONU.
Il y en avait 58 à l'époque et 48 États ont voté pour, 8 abstentions et 2 étaient absents.
Oui, c'est absolument extraordinaire. Je pense que une telle unanimité ne se reverrait plus jamais de nos jours au sein de l'ONU.
L'URSS s'est abstenue.
L'URSS s'est abstenue et a entraîné un certain nombre de ses satellites. Mais les deux pays qui me semblent les plus emblématiques, qui se sont abstenus, mais qui n'ont pas étaient contre. Hein. Ils se sont juste abstenus, donc c'est une victoire diplomatique. C'est l'Arabie Saoudite, parce qu'elle ne pouvait pas accepter l'article 18 sur le changement, la possibilité de changer de religion, la liberté de religion.
Et ça résonne ces jours-ci avec
ça résonne toujours
une force
ces jours-ci,
particulière
absolument,
à cause de certains événements survenus à Istanbul.
Absolument. Ça reste un point épineux hein, entre les pays de culture musulmane et l'ONU. Et puis, il y avait évidemment l'Afrique du Sud qui avait cette politique d'apartheid qui niait à la racine tout droit de l'homme.
Le rôle d'Eleanor Roosevelt est assez significatif aussi. C'était une personnalité très forte, la femme de Franklin Roosevelt, donc le président des États-Unis. Il y a une très bonne biographie d'elle par Claude Catherine Kegeman, auquel je renvoie volontiers.
Oui, c'était une femme extraordinaire et on a eu beaucoup de chance finalement que ce soit une femme qui ait présidé cette commission de rédaction. Alors elle l'a présidée à cause de ses qualités réelles personnelles, mais aussi évidemment parce qu'elle était la femme puis la veuve. Hein, Franklin Roosevelt ne vivait plus à cette époque-là. Et elle, en fait, elle le fait aussi dans la suite des idéaux de son mari, puisque cette Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est rappelé dans le préambule, et son origine se trouve dans ce discours des quatre libertés de Franklin Roosevelt en 1941.
Quelles
sont-elles ? La liberté de religion, la liberté d'expression et le droit à ne pas vivre ni dans la misère, ni être soumis à la terreur.
Eh bien, il faut que nous entendions un petit morceau au moins de cette déclaration à laquelle nous pouvons évidemment renvoyer. On la trouve facilement sur la toile. Voici quelques articles qui nous ont paru, à vous et à moi, Valentine Zuber, importants, diffusés, lus dans les Samedis de France Culture, une émission consacrée à la torture dans le monde, une émission de Nicole Strauss du 30 mars 1974.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques et l'exercice du culte. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 18, 19, 6 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Valentine Zuber, quel commentaire ?
Eh bien, écoutez, la lecture de ces quelques articles résonne encore cette lettre de Voltaire que nous avons écoutée tout à l'heure. Je pense que c'est bien la preuve que ces droits de l'homme dépassent le temps, dépassent les frontières et sont véritablement universalisables.
Ce texte est rédigé dans un moment historique spécifique, bien sûr, après la chute des dictatures, la chute du Japon, la chute de l'Italie, la chute de l'Allemagne. Il y a encore, évidemment, le bolchevisme, qui n'est pas un lieu de liberté. Mais le climat général est d'un optimisme assez marqué, non ?
Enfin, d'un optimisme et en même temps d'une révolte contre ce qui s'est passé, contre la tragédie épouvantable qui a bouleversé le monde entier. Et donc, on est là vraiment avec ce slogan « Plus jamais ça ». Et on cherche les moyens diplomatiques et politiques, hein, parce que c'est vraiment un texte politique, d'en finir avec les horreurs perpétrées par les hommes eux-mêmes. Et on passe par là, par l'intermédiaire de l'individu, de la dignité, et je crois que là aussi c'est dans le préambule et c'est très fort, la dignité de la personne humaine, sur lequel toutes les politiques et toutes les religions, tous les grands mouvements de pensée peuvent se retrouver.
Avec en particulier une influence des religions et du catholicisme et du protestantisme à nouveau, qui était beaucoup moins marqué au long du 19e siècle. Et vous y insistez dans votre livre sur l'origine religieuse des droits de l'homme. Et c'est peut-être l'occasion de faire ressurgir notamment la figure de Jacques Maritain, comme vous le faites dans vos écrits.
Oui, parce que Jacques Maritain, à cause de son exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et de son réseau qui s'est beaucoup élargi à ce moment-là, il a rencontré des juristes protestants qui avaient déjà travaillé sur une première déclaration des droits de l'homme pour essayer de régler les problèmes post-Seconde Guerre mondiale. Eh bien, Jacques Maritain va essayer de rapprocher la doctrine catholique plutôt personnaliste, hein, des droits de l'homme laïques, des droits de l'homme séculiers, tels qu'ils sont présentés par les juristes américains.
Oui, il fait paraître un essai de philosophie qui s'appelle « Les droits de l'homme et la loi naturelle » en 43.
Oui, pourquoi la loi naturelle ? Parce que l'Église catholique se réfère toujours à cette loi naturelle. Ce qui était intéressant, c'est que les députés de la Constituante étaient aussi des adeptes de la loi naturelle. Donc, c'était pas tout à fait les mêmes lois naturelles, visiblement. Il y a là, donc, une tentative par Jacques Maritain d'accommoder tout ce qui relève de la loi naturelle catholique qui peut se rapprocher de cette protection de l'individu et de la personne, du droit à la vie et du droit à une vie décente.
Il écrit, c'est topique, « Le 14 juillet ne nous rappelle pas seulement la flamme de liberté et d'espérance que la Révolution a répandue dans le monde, toujours dans le monde, il ne nous rappelle pas seulement cet éveil du sens de la dignité et des droits de la personne qui ne fait qu'un avec la proclamation d'un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité humaine. Chaque anniversaire du 14 juillet nous rappelle aussi le malentendu cruel qui, depuis un siècle et demi, a tourmenté la conscience française, prise entre sa tradition chrétienne, trop souvent confondue avec une politique réactionnaire, et sa tradition révolutionnaire, trop souvent confondue avec une philosophie de la destruction. »
Oui, on est vraiment là dans la tentative pour réconcilier ces deux France, hein, qui ont été magnifiquement décrites par Émile Poulard. Ce conflit des deux France, eh bien, il faut le résoudre, et c'est parce que la France sera réconciliée qu'elle pourra aussi œuvrer à la diffusion des droits de l'homme. Pour Jacques Maritain, dans chaque philosophie, que ce soit la philosophie républicaine ou la théologie catholique, il faut prendre ce qui est en commun, ce qui peut faire combat commun.
Mais c'est peut-être aussi cette rencontre enrichissant le terreau où cette nouvelle déclaration a fleuri, qui explique certaines remises en cause d'aujourd'hui par d'autres religions. Il faut que nous en venions pour finir, Valentine Zuber, à cette morosité qui, depuis peut-être 20 ou 30 ans, a commencé d'entourer l'ambition de la déclaration de 48.
Oui, parce que il y a eu depuis 1988 toutes sortes d'événements et des événements à la fois de politique extérieure extrêmement traumatisants, l'effondrement du Moyen-Orient, le terrorisme djihadiste qui a frappé jusqu'aux États-Unis. Donc il y a eu des raidissements des différents gouvernements et des États, et puis aussi une certaine impuissance de l'ONU à donner un cap et à, surtout à être obéi, enfin à être suivi dans le cap qu'elle donne aux différents pays.
On a pourtant adopté au fil des ans un certain nombre de pactes, d'actes supposés conduire à une incarnation de la déclaration de 48.
Oui, l'incarnation en particulier, ce sont les fameux pactes des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux qui ont été signés en 1966 et qui ont été mis en œuvre à partir de 1976, ce qui n'est pas très récent, mais ce qui n'est quand même pas non plus 1948. Donc c'est un processus, hein, cette implémentation des droits de l'homme dans la sphère internationale. Ceci dit, signer un texte ne veut pas toujours dire le suivre, hein, absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on a développé des cours de justice pour veiller, et des comités des droits de l'homme, pour veiller à cette application par les États signataires de ces textes.
Vous mettez en lumière dans vos travaux, Valentine Zuber, trois vagues de contestation dans les derniers temps de la déclaration de 48. On est loin de l'optimisme de Francis Fukuyama qui prévoyait au moment du 50e anniversaire et après la chute du mur, une fin de l'histoire. Ça paraît un peu une faribole aujourd'hui. L'idée qu'on en viendrait sur la terre entière à la démocratie à la mode américaine, c'est à peine si on aurait besoin de rappeler la déclaration de 48.
je dirais que la déclaration de 48 illustre quand même la démocratie libérale hein, et le projet démocratique libéral. Donc, il y avait cette utopie, effectivement, que face à l'effondrement du bloc soviétique et de l'idéologie communiste, eh bien, la démocratie, par l'éducation, par la diplomatie, par des encouragements, y compris financiers, allait s'étendre indéfiniment dans le monde.
Mais quelques années après le livre de Fukuyama, surgit le choc des civilisations de Huffington.
C'est un débat effectivement interne à l'Amérique, mais qui concerne le monde entier. Et cette théorie du choc des civilisations, évidemment, elle caresse dans le sens du poil tous les gouvernements qui ne sont pas très heureux d'avoir une tutelle au-dessus d'eux et donc une mise en cause de leur souveraineté. Et donc, voilà, il y a ces critiques, après la critique marxiste qui a été très, très importante et qui a fait que l'URSS n'a pas été signataire finalement de la déclaration de 48, il y a eu cette critique culturaliste qui, au lieu de se mettre au niveau de l'individu lui-même, hein, sujet de droit, a prétendu qu'il y avait des civilisations où l'individu n'avait pas tout à fait la même place et donc que les droits individuels étaient une invention occidentale qui ne pouvait pas s'appliquer dans certains espaces. C'est le cas, par exemple, des valeurs, des dites valeurs asiatiques qui ont été promues par les Chinois ou les Singapouriens.
Deuxième vague donc de critiques après la critique venue du marxisme, deuxième vague, et puis vous en distinguez une troisième.
Oui, qui s'inscrit un peu dans le même courant. C'est une critique culturaliste aussi, mais à tonalité religieuse. Et cette critique, elle est tenue par les pays de culture musulmane qui arguent d'une spécificité de l'islam qui empêche que tous les droits individuels qui sont compris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme puissent être appliqués dans les sociétés musulmanes.
Parallèlement à cette remise en cause que vous évoquez par une grande partie de la planète, sur une grande partie de la planète, de la déclaration de 48 et de l'esprit qu'il a inspiré, néanmoins il y a des progrès qui s'affirment, en particulier dans la direction de l'attention qu'on peut porter à ceux qui étaient négligés par les textes de 1789, vous l'évoquiez tout à l'heure. Par exemple, les enfants, c'est important.
Oui, il y a eu plusieurs... En fait, l'appareil, le système des droits de l'homme onusien ne se réduit pas, si je puis dire, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux pactes contraignants qui les ont suivis. Toutes sortes de conventions, et d'ailleurs la Convention contre le génocide a précédé quasiment la Déclaration universelle des droits de l'homme, toutes sortes de conventions se sont surajoutées sur des thèmes précis, le droit des femmes, l'élimination des discriminations, et puis cette convention sur les droits de l'enfant, assez tardive, 1989. Mais qui montre que l'enfant est un sujet de droit lui aussi.
Et puis il faut que nous terminions sur une autre critique de ce que certains appellent, non sans condescendance, le droit de l'hommisme. En quoi les politiques étrangères des pays occidentaux, voués à respecter ces droits de l'homme à l'intérieur d'eux-mêmes, en quoi doivent-ils les afficher constamment en face des autres pays et quelles concessions ils doivent faire à cet égard? Comme disait Hubert Védrine, toujours sévère à l'égard des droits de l'hommisme, il ne faut pas imaginer que la terre entière soit une sorte de vaste Danemark.
Oui, effectivement, il avait le sens de la formule, là, le sens de la formule et du raccourci, mais c'est important ce qu'il montre, c'est que on ne peut pas se mettre derrière le drapeau des droits de l'homme dans une politique, enfin, d'une politique extérieure qui est particulière à son pays. Et il critique tout particulièrement les États-Unis au moment de l'invasion de l'Irak en 2003 pour apporter la démocratie et les droits de l'homme par les armes. Il y a là toute une contradiction dans les termes. Les droits de l'homme ne peuvent pas être imposés. Les droits de l'homme doivent être revendiqué de l'intérieur. Et donc,
une problématique qu'on trouvait déjà au moment de la colonisation, mais de façon peut-être
renouvelée. Oui, dans la mission civilisatrice de la France, avec quelques silences faits sur les droits de l'homme dans certaines sociétés colonisées.
C'est une litote.
Voilà. Mais oui, je pense que la critique droit de l'hommiste, elle est intéressante parce que on ne peut pas faire de la bonne politique, de la bonne diplomatie avec des bons sentiments, dit Hubert Védrine. Il faut que on est toujours dans le compromis, dans la discussion. Il faut arriver à un point où on s'entend sur des points précis. Et donc, on ne peut pas complètement tenir une promesse morale qui serait la promesse des droits de l'homme. Ceci dit, ce n'empêche pas, et je pense que les acteurs de la diplomatie venus des pays qui portent cet idéal des droits de l'homme particulièrement comme la France ou les États-Unis ne doivent pas s'empêcher de rappeler aux États qui vont à l'encontre des droits de l'homme et qui les violent jour après jour, rappeler qu'ils ont signé ou qu'ils font partie de ce système et qu'ils ont des comptes à rendre aux autres pays au sein de l'Organisation des Nations Unies.
Cette définition d'un équilibre diplomatique me paraît très pertinente. Dans la pratique, ce n'est pas toujours très facile de le définir.
Mais la diplomatie n'est pas quelque chose de facile.
Très bonne conclusion. Merci Valentine Zuber. Vos deux ouvrages majeurs sur ces questions, sur la question des droits de l'homme et des déclarations les concernant, sont d'une part un livre intitulé « Le culte des droits de l'homme », important, paru chez Gallimard en 2014 dans la Bibliothèque des Histoires, bibliothèque prestigieuse, et puis plus récemment chez Labor et Fides, « L'origine religieuse des droits de l'homme ». Vous nous avez montré dans cette conversation à quel point la religion est fondamentale dans toute cette réflexion et toute cette description historique de la question des droits de l'homme.
Oui, la religion était très importante parce que c'est un réservoir de concepts, c'est un réservoir de croyances, c'est quelque chose qui engage l'homme au-delà de sa corporéité. Alors il y a aussi des convictions qui font la même chose, mais je pense que historiquement, nous venons d'un monde beaucoup plus religieux que notre société actuelle et nous avons un petit peu du mal à comprendre cela. Mais même les députés de l'Assemblée constituante en 1789, ils avaient conscience de cet aspect religieux et para-religieux qu'il fallait donner aux droits de l'homme pour leur donner leur force politique.
Sacralisation des droits de l'homme, on a souvent dit cela.
Oui, sacralisation des droits de l'homme, et dont j'estime qu'il faut couper avec cette sacralisation afin de les rendre acceptables et acceptés par toutes les parties du monde.
Message bien reçu. Je rends hommage d'autre part au livre de Marcel Gauchet, un livre déjà ancien, qui est antérieur au bicentenaire et qui s'appelle « La révolution des droits de l'homme ». C'est une étude de la genèse de la déclaration de 1789, c'est bien ça?
Oui, et c'est un texte foisonnant et passionnant qui ne cesse d'interroger et qui a vraiment servi de déclencheur dans toutes mes recherches.
Je signale enfin que dans un tout récent numéro de la revue Le Débat, chez Gallimard, vous avez donné un article intitulé « Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un anniversaire en demi-teinte ». Peut-être avons-nous fait une émission en demi-teinte, Valentine Zuber.
Je n'espère pas. Je pense que les droits de l'homme méritent mieux que la demi-teinte et qu'on peut les promouvoir tout en étant lucide sur les limites.
Puis-je dire que j'espérais votre réaction et que même je l'ai suscité à dessein ?
Oui, bah écoutez, vous voyez, j'y ai répondu.
Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, bien sûr, écouter, réécouter et podcaster cette émission. La semaine prochaine, c'est l'effet direct de l'émotion des Gilets jaunes, émotion au sens ancien du terme. Nous allons parler du poujadisme. Le poujadisme, une révolte, nous verrons s'il y a des ressemblances, des différences, notamment du côté de la protestation fiscale, etc. Et j'inviterai Dominique Borne, qui a travaillé sur le poujadisme. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Alice Seyed, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.